Bonjour et merci à tous pour assister, d'être venus assister à cette table ronde sur les tribunaux galactiques et les figures de justice dans la science-fiction. Aujourd'hui, la loi, c'est doux et on va avoir trois intervenants exceptionnels qui sont à cette table. On excuse juste, ils étaient sur le programme et puis ils n'ont pas pu venir. Et Patrick Chaumette et Patrick Giger, une histoire de Patrick. Je sais pas bien pourquoi, mais on trouvera peut-être une peine donc à leur infliger. On a la grande chance d'avoir Norman Spinrad et Robert Silverberg, mais qui vont parler en anglais. Oui, vous pouvez les applaudir, ils sont avec nous, voilà. Vous avez de la chance, vous êtes applaudi avant d'avoir parlé. C'est magnifique. Si vous voulez tout comprendre, il y a des petits casques sur la position 1, puisqu'on a la chance d'avoir des traducteurs. Donc, en simultané, et traducteurs qu'on salue. Merci à eux. Donc, voilà. Alors, je vais présenter rapidement mes trois intervenants. On va commencer par Robert Silverberg. Je ne peux pas dire toute sa bibliographie, parce qu'il y en aurait trop. Mais moi, j'ai des coups de cœur, par exemple, pour Les Monades Urbaines, pour Tout Magiport, pour L'Oreille Interne, pour Lord Valentin, enfin... Tous ces magnifiques livres qu'il nous a offerts, qui a marqué l'histoire. Et vous verrez que dans ces livres, il parle de justice de temps en temps. Il inflige des peines, parfois assez, assez dures, à ses héros. À ses côtés, on a également la grande chance d'avoir Norman Spinrad. Vous connaissez tous Rêve de fer, vous connaissez tous Jacques Baron et l'éternité, vous connaissez tous Oussama. Je voudrais qu'on parle de Police du peuple. Le dernier, et on évoquera aussi de temps en temps peut-être quand le peuple fait lui-même justice et quand il prend la main sur les tribunaux et tout du moins le pouvoir. Et puis on a également la chance d'avoir le délégué artistique des Utopiales, Hugo Bellagamba, qui vient donc participer à cette table ronde, qui est enseignant en histoire du droit, donc c'est un sujet qu'il maîtrise, hein. Il aurait même pu être tout seul sur scène pendant une heure. On parlera de la Cité du Soleil, de l'origine des victoires et de la 8e colline de Rome, entre autres parmi ses romans. Peut-être une première question. Oui. Ah, il marche pas.
Ah, Madame Ned.
Non, c'est le 2. C'est le 2.
Est-ce que tu as dû... Est-ce que ça souffle dans la...
Oui.
Est-ce que ça souffle? Est-ce qu'on peut faire un petit essai, les traducteurs?
Rien.
Oui. Oui.
Ça marche?
Ça marche? Non?
Non, okay.
Oui?
Tenez, celui-là.
C'est le volume.
Ah, c'était le volume peut-être. Ouais. Ouais.
Moi,
je vais prendre celui-là. Et t'en as plus.
Celui-ci,
je vais prendre celui-ci. Ok. Hop.
Ah.
T'as ton casque? Right. Et j'ai mon casque.
It's good? You hear him?
Va bene, va bene. Yes, yes.
Voilà, c'est pratique. Vous n'avez absolument pas entendu tous les éloges que j'ai fait sur vous juste avant.
Can you hear me?
Vous pouvez l'entendre?
Voilà.
Parfait. Je termine de m'équiper. Hop. Alors, je voudrais peut-être commencer, puis on va pour une fois changer un peu. Souvent, les tables rondes, vous savez, on part de points précis et puis on ouvre. Et bon, on va faire l'inverse aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle un petit peu en général et puis après, on reviendra sur nos auteurs et sur un peu des cas d'espèce. On va peut-être ouvrir un petit tribunal. Peut-être une question à nos trois auteurs, peut-être en priorité pour toi. À quoi sert de mettre en scène la justice dans la science-fiction? Est-ce que c'est un argument fictionnel fort pour révéler quelque chose ou pour parler de différentes thématiques? Peut-être Hugo, et puis après je vous passe la parole à Norman et à Robert.
Alors, bonjour d'abord. C'est impressionné d'être à côté de Norman Spinrad et Robert Silverberg. Et d'avoir l'honneur de parler en premier, merci, hein, c'est redoutable, hein, super, merci Jérôme. Pourquoi représenter la justice en science-fiction? Eh bien parce que pour moi la science-fiction évidemment est le reflet des préoccupations de la société, elle est le reflet de nos inquiétudes ou de notre insouciance, comme je le disais sur une autre table ronde, et qu'en particulier eh bien, il n'y a pas de société sans justice. Moi, je suis juriste de formation, historien du droit, et j'ai fait pas mal d'anthropologie juridique. Et la première chose qu'on apprend, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle de justice universelle, il n'y a pas un seul droit universel, mais par contre, il n'y a pas de société sans système de régulation et système d'organisation des comportements. Que ce soit par la loi, ou que ce soit par le contrat, que ce soit par le rite, comme dans la Chine de Confucius, ou que ce soit par une loi, comme dans notre tradition occidentale, extérieure, imposée de l'extérieur de la société, une norme, on va dire. Donc, de toute façon, le sujet principal de la science-fiction étant, de mon point de vue, par sa filiation utopique, l'organisation des sociétés, ou l'existence de sociétés alternatives, eh bien, inévitablement, on tombe sur les représentations de la justice. Inévitablement, tout auteur qui se penche sur une société, qu'elle soit purement imaginaire, ou qu'elle soit une société du passé réinventée, en quelque sorte, il va toujours, à un moment donné ou à un autre, tomber sur la question de la justice. Hein. Ça, c'est évident. Je pense par exemple au Je suis Légion de Xavier Mauméjean sur la Mésopotamie. On est toujours dans une logique, pour prendre un exemple français, on est toujours dans une logique de justice. Tôt ou tard, on tombe sur la justice. Et pour dire un mot de plus, tu m'as parlé des représentations de la justice, et ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que la justice est aussi une représentation. Les premières divinités dans les premières civilisations humaines sont des divinités dont la première compétence, le premier pouvoir, c'est le pouvoir de juger. Chez les Grecs, par exemple, la déesse Thémis, qui va trancher les conflits, qui va donner naissance au droit, au jugement. Et donc on est aussi dans une justice qui est une projection de notre identité culturelle, une représentation au sens littéral du terme. Et la science-fiction étant se nourrissant de représentations, inévitablement, que ce soit le sujet principal du roman ou pas, hein, d'ailleurs, hein, mais inévitablement, tôt ou tard, on tombe sur la question de la justice, de la manière dont la justice est rendue, de la place du juge, de la place de la loi, de la sanction, évidemment. Voilà, donc c'est vraiment, ça me semble incontournable.
Je vais poser la question à Robert Silverberg. Vous qui avez imaginé tant de monde, tant de romans, tant de sociétés, comment est-ce que vous êtes débrouillé avec cette question de justice ? On va en parler, il y a des exemples, mais est-ce qu'elle a une place importante pour vous dans cette création ?
Well, of course. As Hugo said, there's no society without justice. And he also said the justice of that society reflects the nature of that society. Here on Earth, we have many different kinds of justice. France still operates under the Code Napoleon. The British and American system is quite different. The Islamic system, extremely different. And that's one planet in the same century. In past centuries, our sense of justice was was governed by quite different rules in this one planet. In ancient times, in order to testify to the truth of what you are alleging, you would grab your testicles. That is where the word testify comes from. Now, I'm aware that women don't have testicles. I learned that a long time ago. But women were not part of the justice system in that society. Women had no rights whatever. That's a cultural difference. Later, we had a different logic of justice. It was a logic. It may seem not logical to us. For example, when a woman, and they were usually women, was accused of witchcraft, she might be thrown into the water. If she came up from the water,
she was a witch.
The water was rejecting her. She was a witch. Burn her. If she sank, not a witch, but she drowns. There's a logic to this, and it is a kind of justice. Well, we've moved past that point, I think, at least in Western countries. But in science fiction, where we are inventing entire cultures, and we pretend that we're inventing them from zero, but of course we're not. We're adapting what we know from our planet. In science fiction, we invent forms of justice. Each of us as a writer has invented something speculative. That's the nature of science fiction, the what if. What if this were the system of justice here? And it's an essential part of science fiction. In any culture we invent, what is the system of law like? What are the rules under which this culture functions? If we don't know, if the writer doesn't know the rules, it's impossible for him to develop the set of conflicts out of which any fiction is developed. Conflicts are pressures against the rules. What are the rules? So, of course, we try to understand terrestrial justice systems and then to transform, to distort them in the way that we do when we write science fiction.
Je vais poser la même question à Norman Spinrad, qui a peut-être une approche qui est la sienne et toute particulière. Norman, quand vous écrivez vos romans, quelle place justement à cette justice ?
Premier, je demande à l'audience, vous préférez le mauvais français ou le très bon anglais ? Anglais ? Ok, anglais. I think that for me, the real dramatic question and the real political question is, what do we mean by justice? Do we mean a system of laws, whatever they are, whether they're Sharia or Code Napoleon or Anglo-American tradition, or are we talking about something that could be called moral justice? Bob Dylan said, you have to be honest to live outside the law. And Martin Luther King made it very clear that there were times when it was a moral obligation to protest, fight against the legal system, even though it meant you were going to go to jail to do it. And I think that is like a very fundamental question. That is certainly a dramatic question. In my latest book to be published here, Le Police du Peuple, the question is, the police actually become the revolutionaries because of various reasons they decide that they're not going to enforce legal laws that they find injustice, that they find unjust, and also politically impractical. So I think you always have a dramatic tension between legal rules and what might or might not be universal concepts of moral justice. Right now, another book I wrote, which is Osama, you have Sharia that is desired by a large portion of the human race. And they consider our laws evil. We in the West, well, whatever you mean by the West, find their Sharia totally repulsive. But because our culture says that multiculturalism is morally positive, we have a great deal of trouble defending our moral rules against theirs. The way they treat women is totally anathema to our concept of legal morality and of absolute morality itself. But we have trouble defending that against a system where the difference, which has not been resolved, is that in France or rest of Europe or in the United States, the concept is that justice, that law, that the legitimacy of a government derives from the consent of the people as expressed in some kind of vote or some kind of parliamentary decision. In Islamic countries, that's considered evil, because in those countries, it's the Quran that is the immortal word of God, and therefore the idea that human beings can vote to change it is anathema. And this, I think, is the great moral political question of the time, which is very difficult to answer. I've written a couple of books about this in some kind of way, which is Osama and which is People's Police. But this is a very, very fundamental difference between the question, the paradox, that one of our beliefs about justice, about legitimacy of government, is that it derives from the consent of people in a vote. Their idea, it's the Quran, and people do not have the moral right to change the direct word of Allah. And we don't really have a very good way to cope with this except by a war that's been going on for 2,000 years.
Norman, you used the word universal moral law at one point in what you just said. Do you believe there is such a thing as universal moral law, and how can we determine what it is?
It's very difficult. I'm not sure whether I do or not. I think there are some things that really seem like fairly universal, like rules against genocide, against murder, against certain forms of torture, against thievery, against stealing things from people.
But universal.
Well,
everything you've just mentioned is being practiced at this moment by followers of Sharia. And
no,
they do not regard themselves as evil while they practice genocide and torture.
No. There are these are that's not true. That's not true. Sharia, however harsh it may seem, does have rules against murder, theft, rape, and so forth. They're different, and the punishments are much harsher, but they don't regard that as okay.
If they're different, they're not universal. The Islamic State believes that it is acceptable to rape infidels, though not Muslim women, and so on. There are many exceptions. Among Christians, a group that I don't believe either of us belongs to, there's a concept of natural law, which is that which they believe.
Yeah, but there are still certain things that are in common. A few things like murder, theft. I don't think there's any legal code anywhere that says theft is okay or outright murder, for example. That's a few things.
On peut peut-être poser la question à notre juriste.
Alors, je veux pas faire le. Non, je veux pas faire le juriste d'autorité, mais juste pour le débat qui est en train d'avoir lieu, qui est quand même passionnant et qui prouve que la science-fiction justement se nourrit. C'est un débat qui remonte aux origines du droit. Hein. C'est un débat qui remonte aux origines du droit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le droit naturel et qui est universel parce qu'il est inscrit dans la nature même de l'homme. Et est-ce que ce droit naturel est plus ou moins décliné, dans les deux sens du terme, par les sociétés qui existent? C'est-à-dire que les sociétés qui existent au fil du temps dans l'histoire de l'humanité, ça ce sont les leçons des anthropologues du droit. Les premiers anthropologues du droit écrivent au XIXe siècle dans un monde en plein changement, marqué aussi par l'expérience de la colonisation. Hein, donc il y a tout un contexte à prendre en cause, à prendre en compte. Est-ce que ce droit naturel existe? Et est-ce que, si oui, toute législation positive en découle? Dès lors, ça voudrait dire que tout le droit positif de toutes les sociétés humaines depuis l'aube des temps doit répondre à un certain nombre de principes universels fondamentaux, qui sont l'interdiction du vol, l'interdiction du meurtre, etc. Il y a ceux qui tiennent pour acquis, et les Romains en faisaient partie, qu'il existe quelque chose comme ce droit naturel. Et puis, il y a, au XIXe siècle, va prévaloir, surtout dans l'expansion de l'Europe, et au moment où naît la science-fiction, hein, puisque si on prend vraiment Wells, Verne, Kipling, René Né, enfin tous les grands auteurs européens, avant que la science-fiction ne devienne aussi une littérature américaine, dans ce XIXe siècle-là, ce qui triomphe, hein, c'est le positivisme, incarné par Auguste Comte en particulier, qui va dire « il n'y a de société que d'hommes ». Et donc, chaque société peut se doter de la loi qui lui correspond et qui correspond à ses valeurs, et il n'y a pas d'autre horizon que la loi positive. Et donc cette grande question juridique, elle n'est aujourd'hui toujours pas tranchée. Et aujourd'hui, les juristes sont toujours en train de se demander s'il y a un droit naturel universel fondamental, s'il y a des principes fondamentaux du droit, ou si tout droit n'est que le droit positif d'une société donnée. Alors si on se positionne par rapport aux deux interventions de Robert et de Norman, la science-fiction s'interroge sur ces questions. En particulier sur la charia, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'effectivement, on a un problème culturel de compréhension de la charia. C'est-à-dire, nous, on est dans un monde marqué par l'histoire chrétienne, dans laquelle, finalement, c'est l'État qui fait la loi. C'est-à-dire, Dieu donne la naissance de la puissance, omnipotestas ad Deo. Chaque puissance vient de Dieu dans un monde chrétien, mais c'est l'État qui fait la loi. Et la loi est applicable par l'État et sanctionnée par l'État parce que c'est l'État qui l'a fait. Donc la loi, elle est humaine. Et ça, c'est le système chrétien. C'est la conviction du christianisme que tout vient de Dieu, mais la loi est humaine. Alors que dans la charia, la loi est divine. Et donc, toucher à la loi divine, c'est une aberration, c'est un contresens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans une société multiculturelle qui est la nôtre, en particulier, la problématique de la charia nous renvoie à notre propre positionnement sur la loi, où on a la conviction qu'une loi qui n'est pas modifiable n'est pas une loi acceptable. Mais c'est un problème culturel. Et c'est bien ce que montre la science-fiction. La science-fiction, dans les diversités, dans les cultures qu'elle crée, elle montre bien que la définition que nous avons de la loi, c'est d'abord et avant tout une définition culturelle. Et donc, lorsqu'on parle de charia, effectivement, il faut d'abord se poser la question de quelle est la représentation de la loi pour la société qui l'applique. Et dans une société multiculturelle, comme on en trouve beaucoup dans la science-fiction, eh bien, il faut que les différentes conceptions de loi se rencontrent, comme d'ailleurs les différentes conceptions de justice. Et Norman a raison de rappeler qu'il y a une justice universelle, ce à quoi croyaient les grands philosophes grecs, mais il y a aussi la justice concrète, la procédure. Robert, tu citais les ordalies du Moyen-Âge où on brûlait les sorcières pour les faire sécher quand l'eau les avait rejetées parce qu'elles étaient sorcières et donc on les faisait sécher sur le bûcher. Mais tout ça, ce sont des systèmes qui ont été marqués par un contexte historique. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien rappeler aujourd'hui. C'est que le contexte historique détermine la forme qu'on a ou le regard qu'on a sur la loi et la justice. Et la science-fiction, en est toujours l'écho finalement. Inutile de vouloir appliquer une loi à une société qui n'a pas l'expérience culturelle de cette conception-là de la loi, en fait, en réalité. Voilà. C'est ça qu'on a vraiment dans notre patrimoine littéraire. C'est-à-dire, c'est ça qu'on trouve dans « Voir l'homme invisible » de Robert, par exemple, ou dans l'ouvrage « La police du peuple » de Norman.
Est-ce que la loi n'est qu'un enjeu de pouvoir dans les romans de science-fiction? En gros, est-ce que la justice, on va dire oui, mais est-ce qu'elle ne sert qu'à ça? C'est-à-dire que quand on met en scène la justice, est-ce qu'elle ne sert qu'à dénoncer un système politique ou le valider ou l'invalider?
Well, in a way, it all goes back to the Code of Hammurabi, which was the revolutionary point of the part here, really. If you look at what it really says, we would consider it pretty awful, at least as bad as Sharia. But the point was that Hammurabi codified rules which was previously just based on power. The king or the tribal leader had the power to do whatever he wanted. So did Hammurabi in a way, but he codified it and didn't. It's not that he created a particular law or a particular constitution, but he created the concept of legality itself. So that was not, I wouldn't say that, we wouldn't say that actually Code of Hammurabi is terrific, you know, is really terrific libertarian stuff today, but at the time it was a severe step forward, a revolution. He invented legality. Now, in America, you have something that you really don't have in much other democracies, which is the concept of constitutionality or non-constitutionality, a code that is above simple legislation. So that very often the Supreme Court of the United States makes decisions on the basis of the Constitution where they don't even particularly like politically what they are doing, because their job is to measure, I mean, if they're doing it right, which they're not always doing it right, their job is to measure law against the rules for law. And I think that's a difficult question here in Europe, where you have to change any law, you have to have unanimity, and other places you can just change it any time. It's a kind of dialogue between political reality, democratic political reality, and some kind of concept of an overall law. The British do not have a constitution. France, this is the fifth republic, and they keep changing it. They could have a sixth republic. In the States, you have a constitution that has lasted over two centuries, which you can't say about any other constitution. For that reason, you can change it, but it's more difficult than changing the law. And it's a difficult concept to deal with. How do you deal with something like Sharia, which is not really in the Quran? Because Muhammad was the only leader who is both the prophet, the general, and a prime minister and a king. So there's a confusion going back to the beginning between what's in the Quran and what they call the Haditha, which is the sayings and decisions of Muhammad as the emperor, as the king. And that is what Sharia is based upon, not secondarily, but tertiary. And that, I think, is the confusion in places like ISIS, Daesh, Saudi Arabia, places like that. It's not the Sharia. I always try and make this a distinction. The Sharia is not the immutable word of Allah as expressed in the Quran. It isn't that. It is based on the Haditha, which isn't that either. And so it's kind of like British common law based ultimately on the Magna Carta, but the Magna Carta is not that, and that is not the Magna Carta. And that kind of thing is a great confusion, I think, within the Islamic world.
Jerome, you used the essential word power. Justice is the expression of power. Any code of law will begin with the words, "Thou shalt not." That's control. That's power. Every culture, including the secular American one, claims divine authority for its expression of law. It's explicit in the Islamic culture, but even in the United States, where religion has become something irrelevant, we still speak of ourselves officially as one nation under God. The problem in determining the proper justice, the universal law that Norman speaks of and that I don't believe in, is one of information transmission. What is the line from the divine being to the lawmaker? Hammurabi had a direct line to El or Marduk or whoever his god was, and woe betide anyone who said he's not in touch with him. All the lawgivers have claimed, God tells me this. God does not always tell the same thing. In science fiction,
We have sometimes speculated about the efficacy of artificial intelligence to guide us. A judge who is, in fact, a machine, not swayed by human emotions, human irrationality, human religious belief, which ultimately is irrational. Even those who are religious, and I confess I am not, have to admit that underneath the code of laws there is something that is not susceptible of proof. It is accepted on faith, and faith is inherently irrational. If we establish a judging machine, a computer judge, do we then have the illusion that we have the abstract reality of justice? Well, maybe not. Around the time of the Code of Hammurabi, the biblical Old Testament gave us the judgment of Solomon. The two women quarreling over the baby, each claiming maternal rights, and Solomon said, let the baby be cut in half and give half to each baby. At which point, the true mother said, no, no, give it to her rather than do that. That perhaps is not following the dictates of justice, but it's following some other kind of law that makes sense to all of us. But we're all human. And what if the computer said, oh, yes, that is quite rational. Have the baby taken out and divided in half. Where is the value, then, of our robot judge? There's no solution to this. We can speculate endlessly. The universal law that you, Norman, conjure up, I think, exists on this planet in 5,000 different forms, none of which are congruent with any other. I wish there were a universal law, but I don't believe it exists, and I don't believe anybody can impose it. Even among the Muslims, we have several greatly differing groups who are at each other's throats all the time over doctrinal issues. The Christians formerly were, and in some of our more primitive Christian societies of the United States, they still are. It's hopeless, but isn't it fun to speculate about how we could fix this?
Well, I want to correct one thing here, Bob, that you said. That isn't correct. A lot of people confuse the Declaration of Independence with the Constitution of the United States. Not the same thing. The Constitution of the United States, the first sentence is, we the people, in order to have a more perfect government, it does not refer to God giving anything. That's the Constitution. And the French Revolution was a more extreme version of the same thing, of divorcing concept of justice from religion into the votes of the people, whether it worked right or didn't work right. That was the idea. The French Revolution had its problems. And the American Constitution survived even the Civil War, 200 and more years, because that was the concept, that you could change even the Constitution if it was more than a simple majority. And it was not referring to God giving anything. One nation under God was something that was instituted during the McCarthy era. It was not even in the original, salute to the flag. One nation, indivisible, with liberty and justice for all. Then it became one nation under God with liberty and justice for all. It was a political move,
A late development. Our currency, though, from the beginning has said, in God we trust, which is a way of saying, this money is good.
Well, and Gene Shepard famously said, "In God we trust, all others pay cash."
The Declaration of Independence, which you didn't quote, begins when in the course of human events.
Yes.
Yeah. But ultimately, I think all the lawgivers invoke God as their support system. God knows this is right and has told me so.
Hugo.
Juste, non, mais c'est tellement passionnant qu'on pourrait passer 4 heures. Mais juste pour montrer peut-être qu'on ne s'est pas si bien que ça débarrassé de Dieu dans notre droit français, entre guillemets, européen et français, puisque donc on voit bien la problématique du rapport à la divinité. Avec la Révolution française que tu as citée, effectivement, on pourrait dire que la Révolution française nous a débarrassé de la divinité, ou plutôt nous a débarrassé de l'origine divine du droit. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, et j'essaye de vous l'expliquer en 2 minutes. Il faut revenir à Thomas Hobbes. On parle beaucoup de l'héritage des Lumières, mais on ne parle pas beaucoup du XVIIe siècle. Mais le XVIIe siècle est très intéressant. Et vous avez un ouvrage en particulier qui est Le Léviathan de Thomas Hobbes en 1651. Thomas Hobbes, qui est un Anglais, qui va connaître toutes les chaos de l'Angleterre, de la fin de l'absolutisme des Stuarts à la dictature de Cromwell, et qui écrit Le Léviathan dans un monde complètement en proie au chaos, pour essayer de donner une puissance suffisante à l'État pour qu'il assure la sécurité. Et bien évidemment, l'État Léviathan de Hobbes n'est pas une divinité. Puisque justement, c'est le produit d'un pacte social. Et Hobbes est l'inventeur de la notion de pacte social. Rousseau donnera le contrat social, ses lettres de noblesse au XVIIIe siècle, et donnera le pouvoir au législateur ultime, qui est le peuple. Hein, le peuple, c'est bien une question de pouvoir. Mais avant que le peuple ait le pouvoir, il y a Hobbes, et Hobbes, qu'on ne lit pas assez, il n'est pas si hermétique que ça, donne le pouvoir à l'État. Le contrat de Hobbes, c'est un contrat passé entre tous les hommes pour un besoin de sécurité qui donne à un tiers, qui n'est pas parti au contrat, le pouvoir de contrainte, cette fameuse coercition légitime. Or, cet État, qui est une abstraction et qui n'est pas une divinité, est investi des pouvoirs de Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs le Léviathan, il faut vous le rappeler, a été haï. Hein, ça a été un ouvrage qui a été rejeté par tous les intellectuels, en particulier toutes les autorités chrétiennes de l'époque. Il a été mis à l'index, il a été interdit par la Sorbonne. C'est un ouvrage qui ne circulait pas. Hobbes a été vraiment rejeté parce qu'il avait commis l'acte ultime, l'atteinte ultime, c'est de rationaliser la divinité. C'est-à-dire qu'en fait, l'État de Hobbes est un dieu rationnel et purement juridique, un dieu froid, un monstre, qui a le pouvoir de Dieu sans être lui-même une divinité. Et qui lui a donné ce pouvoir? Eh bien, les hommes eux-mêmes. La divinité vient des hommes. En fait, en quelque sorte, Hobbes crée un droit d'une contrainte absolue qui a été voulu par le pacte social. Et ça montre quelque chose, c'est que, un, il y a toujours du pouvoir lorsqu'on est dans une problématique de justice. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, a le pouvoir de trancher, ou a le pouvoir de connaître une loi, parce que la connaissance de la loi, c'est aussi un grand problème. Qu'est-ce que c'est qu'une loi si vous n'y avez pas accès? Qu'est-ce que c'est que la liberté par rapport à une loi que vous pourriez subir si vous ne pouvez pas connaître à l'avance son contenu? La charia est dure, mais le contenu est connu. Voyez. Et Hobbes, en fait, a créé cet intermédiaire où on a en quelque sorte divinisé l'État. Et aujourd'hui encore, nous payons ça. C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui dans la conviction que sans État, tout s'effondre. La conviction que sans la contrainte légitime de l'État, qui sanctionne les lois, notre société va au chaos. Mais ça, c'est une conception purement culturelle, et tout comme la conception de la Constitution américaine, où le peuple a vraiment fondé cette Constitution, eh bien la Révolution française, lorsqu'elle a donné la souveraineté au peuple et à la nation, on est quand même resté sur le modèle d'un État qu'il faut respecter, dont il faut respecter l'autorité. Et peut-être l'une des questions qu'on pourrait voir dans la justice ou la science-fiction, c'est: a-t-on des traces dans la science-fiction de justice non étatique, sans jamais qu'il y ait un recours à l'État, des justices qui soient des justices du type arbitrage, comme on trouve dans les sociétés non occidentales aussi, et qui fonctionnent très bien parfois?
Il y a dans les notes que j'avais prises, il y avait dans l'adjacent de Christopher Priest, alors oui. C'est pas l'État, du coup c'est une espèce de tribunal populaire. C'est effectivement, tout le monde se rassemble et décide. L'autre question, pour aller un poil plus loin, dans tout ce qu'on dit, en fait, est-ce que la loi, l'application de la loi, fait peur obligatoirement? Est-ce qu'y a-t-il une crainte obligatoire vis-à-vis de la loi? Je me rappelle des monades urbaines avec, pour les déviants, entre guillemets, la rééducation psychologique ou alors complètement la destruction. Est-ce que la loi doit faire peur?
You know, listening to what Hugo is saying, it maybe changed my mind a little bit. I think that the essence of it is that a roughly democratic society pursues justice as a goal. And as the culture changes, to achieve this goal, the laws have to be modified. You see that in American history, women didn't have a vote until the, you know, what is it, 1919 or something like that. You had the civil rights laws, which have changed voting things. You have a lot of changes in a lot of countries in Europe. I think that Bob is right, that no society achieves absolute justice, whatever that is, but it's the societies that seek to perfect, or if not to perfect, then at least to improve their concepts of justice. I wrote a novel called A World Between, La Grande Guerre, The Bleu et des Roses, a terrible title, wasn't mine, in which a democratic planet has to combat being involved in a political fight between two non-democratic ideologies. And how do you do that without sacrificing your own democracy? It's a very complicated question. You see it, I think, in the European Union. You see what's going on. So I think you're really right. I think, and Bob is right in a way too, that there's no such thing as absolute moral justice, certainly not from the Quran or from the Bible, from any religious tome like that. But in what we might consider advanced multicultural modern societies, there is a sort of feeling that this is a goal which may not ever be reached, but which should be, that's le police de peuple. The laws are unjust. We will not enforce them. And then things change.
Each society, as you said, struggles to attain justice. But each society has its own idea of what justice is. Here's where the science fiction writer has his opportunity. As we explore alien cultures which biologically may have a fundamental difference in justice, we can create the kind of parables that science fiction specializes in. I think of a story by Robert Sheckley, I think it was called The Monsters, in which it was quite permissible for men to kill their wives after a few days of marriage because there was an enormous surplus of women in that biological group. And so the men, after a philosophical discussion, would go home and kill the wife of that night. And it was taken absolutely for granted that this is biologically proper to do. Sheckley did not explore why the great surplus of women didn't rebel against the system, but it was a parable. The dozens, the hundreds of science fiction stories that deal with races that are not remotely human, what kind of justice do plants have? Is it against the law not to have access to frequent watering? We speculate about these things. It's the game that we play. What the Islamic State people are doing is not a game, but they are indeed showing us their ideas of justice in the most horrifying way and telling us that things are different outside our cultural realm.
Well, Donna and I just read a novel which was not science fiction, which I can recommend on this, called The Swallows of Kabul. And this is written about Afghanistan and Kabul under the Taliban. And the thing about being able to kill your wife if you're pissed off or whatever is okay there. And they say women are not really, it doesn't count. One of the lead guys in there, his wife is very sick, and he's got to take care of her. And his friend says, "Why don't you just divorce her and let her die and get rid of this
problem?" Which is done in the work of a moment. I divorce thee.
Yeah. So we see this on our own planet. What Sheckley wrote, really, it's the same idea. What is it? The Inuit would put old people out on the ice to die because they were useless.
That's why I live in California. We have no ice.
Sur les Inuits.
No water.
Ouais, sur les Inuits, pour vous montrer que la science-fiction est en deçà de la réalité. Hein, si on prend le système judiciaire inuit, donc au Groenland, qui existait encore jusqu'à l'acculturation occidentale et l'abandon des traditions inuites que nous avons provoquées, évidemment. Les Inuits réglaient leurs problèmes judiciaires par des concours de chant. Peut-être certains d'entre vous le savent si vous êtes intéressés à l'anthropologie. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, on a un différend à propos d'une terre, à propos d'un terrain de chasse, à propos d'un mariage. On fait un concours de chant. Donc on est en pleine science-fiction, mais c'est bien la réalité. Et ce concours de chant, celui qui chante le mieux... Et celui qui a raison, judiciairement raison, c'est-à-dire celui auquel la justice donne raison. Alors, évidemment, pour nous, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales habituées à la loi, on se dit, mais c'est complètement absurde. C'est fou, parce que ça veut dire que celui qui chante bien, il fait ce qu'il veut. Et bien, c'est exactement ça. Mais alors, pourquoi celui qui chante bien peut-il faire ce qu'il veut chez les Inuits? Eh bien, c'est très simple. Parce que ce n'est pas une société de l'écrit, c'est une société de l'oral. L'identité culturelle et l'histoire se transmettent à l'oral par le chant. Donc, une société inuite dépourvue de chanteurs est une société sans mémoire. Et donc, elle meurt. Donc, il faut des chanteurs dans la société pour transmettre l'histoire de la culture. Dès lors, le chanteur, la justice lui donnera raison, parce que sans chanteur, pas de société. Donc, vous voyez, le projet... de la science-fiction, on en voit des signes partout sur la Terre, et comme disait Robert tout à l'heure, il y a autant de justice, autant de procédures judiciaires, autant de mécanismes judiciaires différents qu'il y a de culture humaine et qu'il y a de... voilà. Peut-être ce qu'on craint, c'est la perte de notre diversité culturelle, ça c'est autre chose. Mais la justice sera alors à ce moment-là un bon révélateur. Le jour où vous avez vraiment une justice universelle institutionnalisée, eh ben c'est trop tard.
You know, it reminds me of a story that Isaac Asimov wrote. About a robot, and the who gets loose, and you know, there's three laws of robotics. One of which says, "Thou shalt not shed the blood of a human being," and the robot is killing people and killing people. Finally, they catch him and say, "How could you do this?" He said, "Well, I'm trying to kill people without shedding blood, but you know, that's really kind of difficult. But I'm really practicing."
Aussi l'homme bicentenaire, bien évidemment, où il y a la question de l'identité.
Juste peut-être un rapide mot pour avant qu'on passe aux questions sur la place du condamné. En fait, en relisant L'homme invisible de Robert Silverberg, quelle est la place de l'homme qui a fauté et qui est condamné dans la science-fiction? Est-ce qu'il est obligé d'être un paria? Est-ce qu'il est obligé d'être un rebelle qui va changer le monde? Est-on obligé d'être en empathie? Quelle est la place de... une fois que la justice est tombée.
Well, as I've been saying all hour long, there's justice and there's justice and there's justice and there's justice, and no two types are alike. I wrote a story long ago called To See the Invisible Man, in which the protagonist is found guilty of some crime, being indifferent to his fellow creatures, and is sentenced to a year of invisibility, where nobody is allowed to see him, to have any kind of action with him. Now, this, of course, gives him the privilege of walking into any bank and robbing it, but it deprives him of human contact for a year. This is a law that is not on any known books. It's a science fiction law. But it's an example of what science fiction can do in the speculative way to find a kind of justice that is not our kind of justice, but is regarded as legitimate justice. Divorcing the wives, or for that matter, in Islamic law, marrying four at a time, quite legitimate in their culture, not in ours.
But more trouble than it's worth.
Well, you've never been married at all, have you?
Yes,
you were married to Lee? Yeah, okay. Well, one marriage hardly even counts.
On va peut-être se réserver les cinq dernières minutes pour peut-être les cinq dernières questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos intervenants? Oui, madame, là, elle lève la main. Eh ben, allez-y, le micro est à...
Bonjour, je voudrais savoir ce que vous pensez des tribunaux, enfin de la loi qu'a inventée Frank Herbert, la loi Gauvachin, et... où les juges ne sont pas des professionnels.
Hugo, bon,
je ne suis pas du tout spécialiste de Frank Herbert, hein, même si j'ai bien évidemment adoré le cycle de Dune, mais les juges non professionnels, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau du tout. Frank Herbert s'inspire sans doute de Rome à l'époque républicaine, où il faut rappeler, parce qu'on oublie trop souvent, quand on pense à Rome, on pense toujours à l'époque impériale, on pense à l'époque des constitutions impériales, etc. Mais sous la République, à Rome, il n'y a pas de juges professionnels. Ce sont les citoyens qui sont les juges. Les seuls professionnels qui existent, ce sont les jurisconsultes, qui sont les maîtres des procédures judiciaires. Mais le jugement, l'acte de juger, est strictement non professionnel, précisément. Et donc, voilà, on trouve aussi bien dans l'histoire des modèles de juges non professionnels. Et si on pense aux jurys d'assises, on est aussi dans une logique non professionnelle. C'est-à-dire on s'inscrit dans une institution, mais le jugement est confié à des citoyens eux-mêmes. Donc c'est ce qu'on trouve aussi voilà, chez Frank Herbert. Ça fait partie de la diversité des possibilités que reflète justement la science-fiction.
Y a-t-il une autre question ? Encore deux minutes, monsieur.
Oui, ça marche. Oui, bonjour. On a dit effectivement que les systèmes de loi devaient évoluer. Je voudrais savoir effectivement comment on pourrait penser une certaine évolution due à des contraintes maintenant écologiques ou climatiques, puisqu'en fin de compte, il y a quand même un impact sur la manière dont on va penser de nouvelles lois ou la manière dont la société va évoluer. Je pense en particulier par exemple la Chine qui a été obligée sous son accroissement de population d'avoir des lois extrêmement dures sur la politique de l'enfant unique, qui d'ailleurs ils sont en train de relâcher un peu la pression. Mais on peut très bien voir que dans les années à venir, la pression de devant le désastre écologique peut nous entraîner vers des systèmes de lois peut-être de plus en plus contraignants. Et comment on peut aussi penser ça et comment la science-fiction a pu penser des systèmes sous cette contrainte?
The Chinese have just withdrawn that law this morning. They will now allow two children because, though this sounds bizarre to me, they're experiencing a labor shortage in a country of 1.3 billion people.
Yeah, well, the problem is that the population was getting older, and in the end, they wouldn't have enough working people to support the retired people. But also, as I understand it, because of the one-child thing, you had a generation of spoiled brats growing up, which was not too pleasing either. But they did it for originally for demographic reasons, because they had a population explosion. So they cured that, but then they had unforeseen consequences.
Many unforeseen consequences, including aborting the female fetuses, because the women not as useful in that culture.
Yeah. Well, something.
Well, yeah. And you talk about democratic. The Greeks invented that word, the demos. Non-professional judges, yes. The people would vote on expelling a citizen from the community and could drive him out by popular vote, not professional judges. The democracy that you have mentioned several times is the tyranny of the majority. And the other side doesn't always recognize the justice being imposed as justice.
Sometimes it isn't. Sometimes it isn't. I have served on a jury duty, on a jury, and I was the last holdout on a jury that was at that point 10-1 for conviction. And I really had to be convinced to put to send this guy to jail. It had to be unanimous. You have that kind of thing to an extreme, I think, in the European Union where it doesn't work very well. But when it's a jury, I was kind of impressed by that experience, that it was the right thing. That if I was being tried for something that I did or didn't do, I would want that kind of jury trial, because it is what they say, a jury of your peers, and the benefit of the doubt is for the person who's been accused. And I think that, you know, from personal experience, it was a very unpleasant experience being sequestered at night and having everybody else tell me to, you know, to put the guy in jail, which I finally was convinced that he was guilty. But I think it was a good lesson in the practicalities of that kind of non-majority democracy.
Well, the majority isn't always right. Of course not. But the majority usually has its way, except where it has to be unanimous. And as we see in the EU, that doesn't work terribly well. And we've seen some jury trials that went very strangely. And, in fact, you yourself conceded to the majority, which was not what I expected you to
finish. No, I did not concede the majority. I kept having the evidence read back to me and back to me and back to me
until
I found what was there that satisfied me personally. I wanted to get the hell out of there, and everybody else wanted to get the hell out of there because we were in a crummy hotel overnight and being fed this horrible meal. And I wanted to get out of there. But I wasn't convinced that the charge, as phrased, I knew the guy had done something. I wasn't convinced that the charge, as phrased by the prosecutor, was that it was too severe and too inclusive and it was wrong. Even though I knew that the guy was guilty of something, but I was there to do that beyond a reasonable doubt. And I had a reasonable doubt. Until I got rid of my reasonable doubt, I could not, because I was the last person on the jury, I could not put the guy in jail. I mean, in that instance, I suppose I could say that I put the guy in jail.
I hope to have you on my jury, Norman. I hope to have you on my jury.
I don't know if I want you on my jury.
Je pense qu'il était parfaitement à sa place, précisément.
On va s'arrêter là. On va être obligé de les arrêter. On embrasse beaucoup
de temps.
Je vous condamne à tous à aller les voir en dédicace ou à rester là pour la prochaine table ronde. Merci à vous et merci à eux.